France Culture.
Le rendez-vous avec Camille Cotin, mise en scène par Jonathan Capdevielle au Bouffe du Nord à Paris du 7 au 25 janvier. Et puis en tournée en France jusqu'en avril. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Anaïs Isebaer, Anouk Minaudier, Jules Barbier et Zelda Chourov. À la technique ce soir, Bastien Varigo, Noé Chaban, Nicolas Delmas et Ludovic Auger. Comme un samedi, oui, c'est le titre de l'émission, réalisé par Alexandre Faugeron.
Vous écoutez France Culture.
Ils sont 6, ils ont 20 ans, viennent de Douarnenez, et partagent pendant un an leurs premiers pas dans la vie d'adulte dans des messages vocaux, comme dans un carnet intime sonore.
Et c'est aussi le premier jour où je suis toute seule dans mon appart, parce que mes parents donc, sont partis hier soir.
À nos 20 ans, une série documentaire en 20 épisodes de Tony Ayer, réalisée par Gilles Mardi-Rossian, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Ce sont des noms d'émissions cultes.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Le Pop Club de José Arthur, Les Nuits Magnétiques, Allo Macha, Love in Fun, Super Nana.
Bonsoir et bonne bourre, comme disait le duc de Windsor.
Autant de voix, autant d'animateurs, autant de façons de faire de la radio la nuit sur lesquelles nous revenons ce week-end dans Salle des Archives.
Salle des Archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
19h59, 45 secondes, et j'entends déjà un râle de satisfaction émanant d'un autre studio, cette grande maison de la radio, puisque j'entends, oui, mon camarade François Angelier, il va être l'heure de mauvais genre.
Tout à fait, mon cher Arnaud, bonne année à vous, et à vos invités, et puis ce soir,
et
mauvais genre, on fait le grand écart entre un César romain complètement décadent et une mystique catholique, elle, complètement surnaturelle. Vous voyez, je ne sais pas comment on sera à la fin de l'émission, mais en tout cas, on prend des risques.
Comme d'habitude, bravo à vous et merci François
Angelier. Merci, merci Arnaud, et vous écoutez France Culture. Cette odeur capiteuse du désastre qui dilue toutes les autres. Guillaume Lebrun. Les miracles font peur. Borges. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, qui en guise de carte de vœux à ses auditrices et auditeurs chéris, risque ce soir le grand écart entre la décadence romaine et la mystique catholique. Elio Gabal, le César Camp, le cuirissime empereur des Romains, adorateur de Baal et amateur de cochers d'arène, et Yvonne Aimée de Malétroit, religieuse augustine à la vie peu commune entre bonnes œuvres et résistance, au corps littéralement lardé de phénomènes inouïs. Leurs chantres Guillaume Lebrun et Jean de Saint-Chéron, auteurs d'ouvrages chez Bourgois et Grasset, sont ce soir nos invités. Chronique signée en second temps d'émission, Esther Teilhard et Chaune Rose. Mauvais genre met le feu à la sacristie et sacrifie à la pierre noire. C'est maintenant sur France Culture. Bonsoir à tous, bienvenue dans Mauvais genre, et d'abord une excellente année 2025, qu'elle vous soit un grand millésime tonique, roboratif, fructueux, cultivé et surtout parfaitement mauvais genre. Et ce soir, on a mis en place un dispositif qui va vous permettre d'apprécier les deux extrêmes, on peut le dire d'une certaine façon, parce qu'en définitive, ils se ressembleraient plutôt. D'un côté, nous aurons Elio Gabal, donc ce César romain qui est donc l'objet du livre de Guillaume Lebrun qui paraît chez Bourgois, Ravagé de splendeur. Bonjour, bonsoir Guillaume Lebrun.
Bonsoir.
Alors, vous connaissez déjà, vous aviez commis une fantaisie guerrière toujours chez Bourgois et qui est maintenant en poche, qui était consacrée plus spécialement à Jeanne d'Arc. Et cette fois, c'est Elio Gabal. Vous avez du goût pour les bas-empires ?
Oui, j'aime beaucoup les instants qui précèdent le désastre, l'effondrement. Ah oui. Et je trouve qu'à la fois chez Jeanne d'Arc et chez Elio Gabal, on est à ce point précis où quelque chose peut être sauvé et ne l'est pas. Et les personnages qui habitent ces époques prennent une dimension supplémentaire mystique, de par ce simple fait, d'avoir été là et d'avoir assisté.
Sauf que Jeanne d'Arc, elle, elle a quand même réussi un peu sa mission, elle a sauvé le royaume. On ne peut pas dire qu'Héliogabale ait vraiment sauvé l'Empire, il en aura été une parenthèse assez affriolante et flamboyante, mais bon...
Moi, je trouve qu'Héliogabale a tenté de sauver...
l'Empire.
De sauver l'Empire, et ce sont ceux qui étaient les vrais... ceux qui avaient vraiment le pouvoir, qui ne l'ont pas laissé faire.
Très bien. Bah, écoutez, on va voir avec vous cet Héliogabale. Jean de Saint-Chéron, bonsoir.
Bonsoir, François Angelier.
Votre livre s'appelle « Mal étroit ». Alors, ça fait penser au Mal étroit d'Henri Bosco, aux lisières du fantastique, au Mal pertuis de Jean Rey. Et c'est l'histoire d'un personnage tout à fait exceptionnel qui s'appelle Yvonne Aimée de Mal étroit, qui était une religieuse, mais qui est avec nous ce soir, si j'ose dire, puisqu'elle a vécu une expérience extrême qui n'est pas tout à fait la même que celle d'Héliogabale. Elle n'a pas dansé en tenue de soie devant la pierre noire, mais elle s'est jetée dans le feu d'amour du Christ des catholiques. Et surtout, elle a vécu une vie de phénomènes mystiques tout à fait extraordinaires. Il ne faut pas prendre les phénomènes mystiques pour une fin en soi, mais comme des signes d'autre chose. Mais néanmoins, on peut dire qu'avec Yvonne Aimée de Mal étroit, on est gâté.
Ah oui, absolument, oui. On est aux frontières du visible et de l'invisible. Moi, j'ai découvert cette figure extraordinaire il y a 2-3 ans. J'ai été d'abord très sceptique, un peu circonspect devant les quelques récits enthousiastes que j'entendais dans la bouche de certains dévots qui ne remettaient en cause aucun des témoignages ahurissants qui entourent la figure. Hein, stigmatisation, bilocation,
floralie, de fleurs,
des prédictions extraordinaires aussi. Et puis finalement, en me jetant dans le dossier, j'ai été moi-même ébloui, conquis. Et maintenant, grand défenseur de la cause.
Voilà, bah ce soir, on aura fait un mariage un peu particulier entre la décadence romaine et la sainteté contemporaine et la résistance, puisqu'elle a été également une grande figure de la résistance dans l'ouest de la France. Avec moi ce soir, Esther Teilhard, bonsoir.
Bonsoir, mauvais genre.
Alors, vous allez nous parler de quoi en termes de mauvais genre ?
En termes de mauvais genre, je vais vous parler de Colette qui écrit sur la mode.
Voilà, bah ça,
beaucoup
ça,
de choses à dire.
Ça fait partie de ses spécialités. Puis signalons quand même qu'Esther Teilhard, le 15 janvier, c'est une date toute particulière, puisque vous sortirez votre premier roman.
Oui.
Qui s'appelle
Carne.
Carne.
Les Carnes, c'est les mauvaises filles, les gorgones, les saloperies. Et elles sortiront le 15 janvier de leur trou.
Là, c'est un titre qu'on aime bien, mauvais genre, Carne. Mais parce que c'est le titre du premier film de Gaspard Noé.
Oui.
Et ben, on parlera de votre roman des parutions. Bonsoir, Chaude Rose.
Bonsoir.
Alors, avec vous, on va se promener du côté de Héliogabale et de Mal étroit. Mais vous allez nous parler aussi en fin d'émission de qui, de quoi ?
Alors, d'un japonais, ou plutôt d'un black mix. Je vous expliquerai
un black mix.
Je vous expliquerai ce que c'est.
C'est
un afro-asiatique. En fait, et c'est un auteur qui s'appelle José Ando, dont c'est le deuxième livre traduit, et ça s'appelle L'homme camouflage.
Très bien, ben voilà, le programme est déroulé. Laurent Polleret est à la manœuvre avec Anthony Thomasson. Le pire n'étant jamais sûr, mauvais genre peut commencer.
Thank you.
Voilà la voix, la gorge, le gosier de Mike Patton en pleine fusion. Évidemment, c'est un disque de John Zorn, le compositeur américain, musicien de jazz, qui a créé 6 préludes pour Elio Gabal, qui sont toutes, effectivement, on peut le dire, à l'image de leur sujet. Alors, Guillaume Lebrun, ravagé de splendeur, le titre dit bien les choses. D'abord, le ravage, c'est-à-dire une sorte de dévastation morale, sociale, politique, puisque on voit débarquer à Rome, un beau jour, une sorte de jeune empereur syrien, dévot de la pierre noire d'Emèse, aux confins de la Syrie, et qui, d'une certaine manière, joue le jeu, mais ne le joue pas, avec la vieille aristocratie politique romaine. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour leur présenter Elio Gabal, selon l'histoire, avant de passer aux écrivains et de vous interroger, Guillaume Lebrun?
Selon l'histoire, c'est donc un très jeune empereur qui appartient à la famille impériale.
Un très jeune empereur, on peut donner l'âge?
Alors, il a 14 ans.
Il a 14 ans, il est empereur de Rome.
Il n'est absolument pas destiné à devenir empereur, puisqu'il est prêtre de Bâle, comme vous l'avez dit. Mais ce sont les manœuvres de sa grand-mère, particulièrement, qui veut absolument retrouver le pouvoir, qui l'amène à devenir l'héritier.
Alors, tout ça, c'est lié à la dynastie des Sévères.
Absolument.
Et la grand-mère était liée à Duan, à Septime
voilà,
Sévère,
c'était la sœur. Voilà. Donc, elle a été exilée en Syrie après avoir vécu à Rome, mais c'est quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. Donc, elle est vraiment prête à tout pour recouvrer ce pouvoir, y compris à mettre son petit-fils, qui est déjà un être très particulier, face à...
Alors, qu'entend-on par un être très particulier?
Quand j'ai commencé, Elio Gabal est un personnage qui m'a toujours fasciné. J'ai eu une prof de lettres qui m'a mis Antonin Artaud entre les mains quand j'avais 17-18 ans.
Je me souviens d'avoir... Antonin Artaud donc, a publié à la fin des années 30 un livre qui s'appelait Elio Gabal ou l'anarchiste couronné. Voilà. Livre extraordinaire, il faut le dire, il faut le lire.
Absolument,
et qui est consacré, qui est une commande de Noël, l'éditeur. Et Artaud s'est lancé là-dedans et c'est vrai que le personnage lui collait merveilleusement.
Oui, et on peut sortir de cette lecture justement qu'en ayant une admiration pour Antonin Artaud, mais pour Elio Gabal. Et quand j'ai fait mes propres recherches, moi je pensais avoir affaire à une grande folle, ce qui me convenait très bien, un jeune homosexuel particulièrement excentrique. Et en réalité, plus j'avançais, plus je me rendais compte que pas du tout, j'avais affaire à une jeune femme trans, pansexuelle, syrienne donc, et sadomasochiste. C'est que ça aime beaucoup... Et quand en plus on est impératrice de Rome et qu'on est scruté à ce point-là, il fallait, dans ce corps dans lequel elle n'était pas à l'aise, se construire elle-même, tout en dirigeant l'Empire.
Alors on peut dire quelques mots de cette dévotion à la pierre noire. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce Bétil, cette pierre noire, qu'il fera transiter de Emèse au cœur de la Syrie jusqu'à Rome, un an de trajet, accompagné d'orchestres, de danseurs, lui-même menant le cortège, et arrivant à Rome dans une sorte de véritable extase.
Oui, et choquant les Romains, l'adoration qu'ils portaient à ce Bétil, qu'on retrouve d'ailleurs dans 2001, l'Odyssée de l'espace, enfin c'est très inspiré. C'était une religion qu'on connaît peu, mais qui était extrêmement répandue dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Le culte de Baal, il y avait différents Baals d'ailleurs, qui étaient adorés, et cette pierre noire était supposée être tombée du ciel, près du Liban. Et donc, Elio Gabal est aussi le premier ou la première à la sortir de l'endroit où elle était tombée.
Mais c'est quoi cette pierre noire? La taille est assez imposante et c'est une sorte de menhir, un dolmen.
Oui, d'après les descriptions, ça ressemble à un menhir noir, extrêmement lisse. Et Elio Gabal, d'ailleurs, va rentrer pour que le Bétil rentre en premier dans Rome. Il rentre à reculons dans la ville, ce qui est complètement absurde pour les gens qui sont venus l'accueillir. Et il place surtout sur le Mont Palatin son menhir, son Bétil, au milieu de la religion romaine.
C'est-à-dire que c'est une époque où Rome est quand même très tentée par les cultes orientaux. Donc il y a énormément de cultes qui sont de provenance exotique, on pourrait le dire, assez violent.
Y compris le christianisme, finalement.
Absolument, comme le mithrasisme, les cultes sanglants, les cultes sacrificiels. Et lui, donc, il va, d'une certaine façon, enfoncer le clou avec cette pierre noire qu'il met sur le Palatin, c'est-à-dire la même où se célèbre le culte de la romanité.
Exactement. Et surtout, il va n'avoir de cesse de tenter de de convaincre les autres religions que finalement, prier, peu importe la manière dont on prie, c'est œcuménique. Et donc, toutes les religions peuvent se retrouver au même endroit. Ça n'a pas tellement d'importance, le dogme. C'est la foi qui compte. Et c'est pour ça que, finalement, les Romains vont accepter non seulement le dieu Baal, mais son prêtre, sa prêtresse, ses sacrifices, le sang, et ce qui pourrait passer pour de la barbarie, mais égorger des enfants, est-ce que c'est vraiment barbare?
Alors donc, Héliogabale va imposer à Rome, je dirais, un règne, une gestion du pouvoir assez particulière, fastueuse, somptuaire, dispendieuse. Il va d'une certaine façon vider les caisses pour créer des fêtes populaires, d'une certaine façon humilier un petit peu l'aristocratie politique traditionnelle. Et il finira comme tous les Césars romains, c'est-à-dire démembré et à l'égout.
Oui, parce que non, son corps ne rentre pas dans les égouts, donc il est jeté dans le Tibre. Mais il est démembré, vivant, pas apparemment. Mais c'est-à-dire qu'il a une vision de l'Empire et de la manière de régner qui est extrêmement... comment dire, enfin, son idée, c'est que le peuple devrait vivre aussi bien que les riches. Et donc, il va jeter de l'or, des diamants, des rubis, un peu comme ça dans les rues, ce qui va bien sûr évidemment considérablement entraîner sa chute, quoi.
Oui. Et sa popularité. Chaude Rose.
Oui, il y a cette histoire du peuple, mais aussi son rapport aux femmes, puisqu'il impose des femmes au Sénat de Rome. Et, oui. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement choqué les sénateurs, qui étaient quand même plutôt phallocrates, pour prendre un terme un peu anachronique.
Il a l'idée saugrenue que les femmes devraient être égales aux hommes, que la prostitution est sacrée, et que l'argent se partage. Ce qui, au IIIe siècle après Jésus-Christ, est effectivement pas du tout convenable.
Alors évidemment, la figure d'Héliogabale a fasciné les chroniqueurs romains en ont parlé, notamment l'histoire Auguste. La science religieuse du XIXe siècle s'est penchée sur lui, les Franz Cumont, Jean Réville et autres très très grands savants. Et puis, la fin de siècle s'est littéralement repu d'Héliogabale, à la fois les peintres et les auteurs. On se souvient notamment que Jean Adelvard Fersen, qui organisait des soirées artistiques avec des jeunes gens près de l'étoile, eh bien, adorait Héliogabale. Et puis, vous avez cité Antonin Artaud, mais il y a également un autre poète fasciné par Héliogabale au point de lui consacrer précocement une pièce, c'est Jean Genet. Tu attends la faille, tu dois croire maintenant à mon humanité. Et si tu crains qu'à l'allure où je vais, il ne me reste rien, détrompe-toi, il me restera cela. Tu as vu comment je traite le monde des hommes, les sénateurs, les nobles? Il n'y a guère de jours que je ne leur joue des farces atroces, que je ne les dépaisse de leur vanité. Leur honneur, je l'ai vendu, leur vertu, je l'ai traîné aux latrines. Et la beauté, oh la beauté, surtout, je l'ai malmenée. En moi et dans les autres, il ne me suffit pas de m'enlaidir, j'en l'ai dit la beauté. J'en l'ai dit autour de moi, mais je n'ai pas épargné le monde des dieux. Je lui ai donné comme chef une pierre noire, en forme de sexe érigé, mon dieu. Et lui-même, je ne l'ai pas épargné. Il se lève et se dirige vers la statue phallique. Regarde-le. Il m'impressionnait terriblement autrefois, jusqu'au jour où je me suis aperçu que la poussière se mettait dans les coins. Depuis, j'ai fait du chemin, putain impérial, j'ai fourré le dieu dans mon lit. Tu connais les rites du culte ? Regarde, tu vois, c'est comme ça qu'on apprivoise les dieux. On leur rit au nez. Ça les décontenance parce qu'ils ne savent pas rire. Ils se laissent facilement tomber du socle. Vous prenez leur place et vous êtes dieu. Le tour est joué. Voilà un extrait d'Héliogabale selon Jean Genet, une pièce retrouvée de 1942, publiée il y a quelques mois aux éditions Gallimard. Alors, vous avez cité Antonin Artaud, là je viens de dire un extrait de la pièce de Jean Genet, Guillaume Lebrun. C'est vrai qu'il y a quand même une extraordinaire bonheur de ce personnage qui, comme on peut le dire, Jeanne d'Arc, mais à l'envers, d'une certaine manière, satisfait tout ce que l'on peut demander à un sujet littéraire.
Oui, il accorde à ceux qui écrivent sur lui une liberté jubilatoire, puisqu'il ne s'est jamais empêché de faire quoi que ce soit. Simplement, c'est sa mort qui l'empêche, mais sinon, tout lui est permis, et tout lui est dû aussi, d'une certaine manière, parce que la souffrance qu'il a accumulée, il entend, comme dans, on l'a vu dans l'extrait de Genet, faire payer ce qu'il a vécu. Et c'est ce qu'il fera jusqu'au bout.
Alors, Ravagé de splendeur, le texte que vous publiez aux éditions Bourgois, confronte Elio Gabal avec une vestale, avec la grande vestale qui incarne, elle, l'orthodoxie religieuse absolue des Romains, et lui, d'une certaine façon, l'hérésie, d'une manière, si l'on veut, de la, pour les Romains, de la croyance religieuse. Alors, comment avez-vous choisi cette espèce de face-à-face très fructueux, puisque vous avez pris une vestale qui est en même temps très frondeuse, qui n'est pas soumise au rituel, et bon, on voit un moment s'éteindre la flamme sacrée, et puis lui, devant, qui danse en tenue de soie. Comment avez-vous structuré un petit peu le propos?
Ben, c'est ce personnage-là qui m'a conduit à écrire sur Elio Gabal, parce qu'effectivement, quand on est précédé par Antonin Artaud et Jean Genet, je ne le savais pas quand j'ai commencé le travail, la puissance de ces voix-là peut nous obliger à arrêter, en fait. Mais ce personnage d'Aquilia, donc la grande Vestale, au départ Vestale, puis grande Vestale, m'a toujours interrogé parce que, historiquement, elle se marie deux fois avec Elio Gabal et elle survit à son assassinat. Et ça, c'est assez incompréhensible étant donné le contexte de l'époque, le bonheur que prenaient les gens à assassiner les femmes. Comment se fait-il qu'elle ait survécu et pourquoi? Et donc, c'était aussi une des questions que je voulais résoudre avec ce texte-là, parce que Aquilia est toujours présentée. Donc, Elio Gabal arrive à l'épouser en retrouvant une vieille loi romaine de la hiérogamie, puisqu'il est prêtre, elle est prêtresse, ils ont le droit de s'unir. Ça fait un scandale absolu, mais le scandale, c'est qu'Aquilia est considérée comme objectivement laide. Si elle ça avait été une femme magnifique, peut-être, il y aurait quand même eu un scandale, mais il aurait été moindre. Et donc, il y avait aussi une autre question qui s'ajoutait à tout ça, c'est pourquoi Elio Gabal est allé chercher cette femme-là comme compagne durant quasiment sa vie entière, en tout cas à partir du moment où elle arrive à Rome, elle ne le quittera plus et elle lui survivra, puisqu'elle survivra même à son cousin ensuite. Donc voilà. Et cette femme, qu'est-ce que c'est qu'être laid ou laide et tout d'un coup être reconnue par la personne la plus puissante du monde comme essentielle? Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans l'écriture.
Alors, comment avez-vous fait pour faire parler Elio Gabal? Parce qu'à l'image un peu de Genet, vous avez, ce qui n'est pas le cas chez Artaud, qui parle d'Elio Gabal, qu'il invoque, qu'il convoque, dont il tente de faire une sorte d'exégèse presque zodiacale, comme si c'était un signe historique majeur, mystique. Vous avez vraiment fait parler Elio Gabal. Alors, comment avez-vous travaillé un petit peu, je dirais, la vocalité du personnage, son apparence, sa dramaturgie? Il faut dire que le texte est absolument superbe. C'est un texte flamboyant, extrêmement, avec un petit côté fin de siècle, mais qu'en même temps, il y a une prise de risque, parce que sinon, vous pouvez aller au-devant du carton-pâte, ce qui n'est pas le cas. Donc, comment avez-vous fait pour travailler la vocalité du personnage, pour le mettre en scène?
Je me suis dit que ça devait être quelqu'un d'extrêmement intense, qui vivait chaque moment, chaque seconde, avec une intensité que nous n'avons pas, en général, ou seulement dans des moments particuliers, et que lui, c'était sa vie entière qui était comme ça, tendue et presque en extase permanente. Donc c'est vrai que le lyrisme un peu fin de siècle m'a tout à fait influencé. J'aime beaucoup la littérature décadente, de toute façon. Et pour Elio Gabal, c'est aussi ce que j'ai voulu retrouver, cette espèce justement, ce terme un peu suranné de splendeur, qui me plaît beaucoup et dont découle une écriture qui parfois est excessive, mais en tout cas essaye d'envisager une poésie totale du monde.
Sean Rose.
Oui, mais en même temps, il y a quand même des petits clins d'œil. Et puis, il y a ce côté, c'est pas du post-suissementien ou quelque chose comme ça. Quand même, vous faites des petites notes très rôles. Vous avez traduit Madonna en latin.
En latin, de la
vous
faites
une petite note en disant « Hymne romain extrêmement populaire repris en l'an 43 ». après Cheryl Sarkisian, donc c'est Cher, hein, en fait, par la sainte, par la sainte catholique Louise Ciccone, pardon, sous le pseudonyme Express Yourself, sous le titre Express Yourself. Donc, vous voyez, il y a quand même, si on pourrait penser que c'était quelque chose, une espèce de chose un peu presque poussiéreuse ou avec une imitation, mais c'est extrêmement drôle et il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi assez postmodernes et avec vous jouez un peu du kitsch, justement, péplum.
Oui, c'est tout à fait du kitsch, du camp. Je pouvais pas m'empêcher de toute façon de citer Cher et Madonna. Elles sont essentielles à l'univers, donc forcément elles seront là après la fin de l'univers de toute façon. Mais c'est vrai que toutes ces allusions, notamment aussi les recettes de cuisine qui sont de vraies recettes de cuisine, un mélange de l'art culinaire d'Akipus qui est lacunaire, que j'ai comblé par des recettes de Maïté qui nous a récemment quitté, afin de des recettes à essayer chez soi. Hein.
Le coup de girafe
farci.
La langue de flamant rose fait effectivement donne faim.
Oui, langue de flamant rose au miel, comme vous l'aviez noté tout à l'heure. Très long à faire, mais qui doit être excellente.
Pour avoir une demi-bouchée, sans doute.
Oui, mais attention, de fin gourmet. Donc, oui. Mais oui, c'était aussi pour montrer, parce que ce sont des vraies recettes que les Romains mangeaient. La vulve de truie, par exemple, était le plat préféré des Romains. Mais il fallait vraiment être très, très riche pour savoir la cuisiner, avoir le bon cuisinier pour la faire. Donc, je voulais montrer aussi que cette époque était camp. Et qu'on oublie toujours, parce que justement dans cette image du péplum presque grandiloquent, qu'il y avait des situations qui étaient extrêmement drôles, parce que presque ridicules, notamment les nomachies, enfin, où Héliogabale fait déverser des litres, des hectolitres, des kilolitres, je ne sais pas comment on dit, de vin, et tout le monde est bourré, donc bien avant que les gladiateurs rentrent.
Bienvenue aux nomachies. Pour le quatrième banquet de noces, j'ai réuni le peuple dans le Grand Colisée pour une ultime nomachie. 50 000 Romains, assis dans l'amphithéâtre, attendent ma dernière mise en scène. Ce n'est pas de l'eau, mais du vin qui inonde soudainement l'arène. Des milliers d'amphores déversés, un double mouvement de stupeur et de jubilation saisit la foule. Il y a là la moitié des réserves de la ville. Lorsque les embarcations remplies de gladiateurs entrent, ils sont accueillis en triomphe. Les vapeurs d'alcool embrument les esprits et font vaciller le public et les combattants. Le sang se mélange au vin et les corps tombent dans cette mer rouge. Plus personne ne se souvient de son nom. Et dans toute la ville, je sers aux Romains ce dont ils m'accusent. Des poissons nourris à la chair d'esclaves, de l'alcool issu de toutes les régions de l'Empire, de l'or fondu pour accompagner les plats, des outrances pendant des heures. Aquilia porte une tunique dorée. Elle est maquillée comme une pharaone, un diadème dans ses cheveux. Je porte une tenue blanche tissée dans ces régions humides. Les tambours remplacent les flûtes, les danses sont frénétiques. Les convives, déjà imbriaques, ne savent plus où ils se trouvent. Rendus incontrôlables, ils se battent, baisent et s'entretuent. On trempe la viande dans le sang encore chaud. On se couvre de foutre. On rejoint la respiration chaude au centre de la foule. Nous ne sommes plus qu'un. Aquilia est portée par la foule. Les gens applaudissent. Pendant 3 jours et 3 nuits, le palais résonne des hurlements de plaisir et des demandes de grâce. Je fais venir toujours plus d'opium. Ceux qui ne peuvent plus suivre sont remplacés par d'autres. On entasse les cadavres devant les portes. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas rêver. Je m'avance vers la mort, les yeux grands ouverts. Mais à la fin, comme au début, il ne reste plus qu'Aquilia, Héroclès et moi.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait de Ravagé de Splendeur de notre invité Guillaume Lebrun. Alors là, là tout y est, d'une certaine façon, c'est la, ce que Bataille appelait la souveraineté, la dépense somptuaire, la consommation, parce que toutes les finances de l'Empire vont servir à cette espèce de bonheur passager, totalement excessif et délirant, offert par l'empereur.
Oui, c'est l'apogée, Héliogabale sait. Sa fin est très proche et donc il donne tout en l'occurrence. C'est un vendredi soir très 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 somptueux. Et puis, il y a surtout cette idée que c'est son Aristie, d'une certaine manière. C'est le moment où il va être, elle va être, totalement elle-même. Puisque plus rien ne compte, il n'y a plus que la mort qu'elle va attendre. Donc, autant faire la fête.
Oui, surtout qu'il y a beaucoup de scènes érotiques, pornographiques, avec son amour pour Hiéroclès, le cocher. Et en même temps, c'est des scènes qui finissent par paraître, je veux dire, extrêmement humaines. À mesure humaine, à taille humaine, c'est le cas de le dire. Parce que là, ce que je viens de lire déporte d'une certaine façon le propos dans une sorte de vide, de ravin, comme ça. On est jeté dans le vide. Tout Rome est jeté dans le vide, beaucoup plus que pour les scènes érotiques.
Oui, je voulais que les scènes érotiques soient le plus réalistes possible. Donc, j'ai 39 ans, 25 ans d'expérience, je me suis dit que je pouvais le tenter.
Oui.
Ce qui me plaisait, c'est que il n'y a pas tellement de virgules ni de ponctuation. Tout se déroule comme ça dans un souffle, dans un mouvement sexuel, qui n'est pas donc plus de l'ordre de la pulsion. Si, mais en tout cas du véritable désir, quoi, plus que de la pulsion. Le désir des Yoga Ball d'être pénétré par le plus d'hommes possible, et le désir d'Aquilia et de Hiéroclès, qui sont encore différents, mais qui en tout cas découlent de la même. Tout d'un coup, la liberté qu'il ne leur a pas octroyée, il se l'octroie eux-mêmes dans la chambre impériale, en quelque sorte.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une icône gay aujourd'hui? Le Yoga Ball fait partie d'une sorte de panthéon.
C'est une icône queer, absolument. Mmh. C'est même la. Devrait être en premier sur les. La première des icônes queer, des icônes trans. C'est un personnage qui mérite d'être connu et qui est bien loin des clichés, justement, qu'on peut avoir. Même quand on l'aime, on peut avoir certains clichés sur lui, sur elle. Et quand on se penche un peu dans la véritable histoire, on se rend compte que pas du tout.
Mike Patton, d'un des six préludes pour Elio Gabal de John Zorn. Vous envisagez d'en faire un film, un opéra, se ravager de splendeur
Non, mais si quelqu'un...
Parce que ça fait penser quand même largement au Caligula de Tinto Brass. Donc si un producteur nous écoute et qu'il a quand même des envies de péplum, là...
Si quelqu'un veut s'en emparer, à condition que les scènes de sexe soient conservées telles quelles, je suis pour.
Ravager de splendeur, et le titre dit bien la chose. Très beau texte de Guillaume Lebrun aux éditions Bourgois. Dire qu'on change d'univers, mais on passe d'une certaine folie du corps à une autre forme de folie du corps, c'est la folie de la croix, après la folie de la pierre noire et la danse frénétique et cataclysmique du César romain devant la pierre noire, c'est la folie de la croix et la folie du Sacré-Cœur avec Mal étroit, donc de vous, Jean de Saint-Chéron, avec cette figure d'Yvonne Aimée. Alors, le précédent livre que vous avez publié aux éditions Grasset, toujours, c'est un livre sur Thérèse de Lisieux, qui est une figure tragique, incandescente, novatrice théologiquement, mais qui reste quand même sur le plan de l'expérience mystique assez classique. On ne peut pas dire qu'il y a des excès. Alors qu'avec Yvonne-Aimée de Malétroit, là, on entre dans un univers, comme pour Elio Gabal, qui est l'univers de l'excès, de la radicalité, d'une certaine manière, au point même que certains mystiques qui ont connu ce type d'existence demandaient d'être libérés de leur faveur divine, et que quand elles étaient soumises aux théologiens, aux inquisiteurs, aux exorcistes, eh bien, les malheureux ne savaient pas quoi dire, et la plupart du temps punissaient, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Quand on ne sait rien faire, on punit. Alors, qu'est-ce qui vous a amené sur Yvonne-Aimée de Malétroit?
Non, mais elle-même d'ailleurs, effectivement, hein, Yvonne Beauvais, dite Yvonne-Aimée de Malétroit, parce qu'Yvonne-Aimée, le nom de religieuse qu'elle prendra en entrant finalement chez les Augustines, parce que sa vie sera semée d'embûches, elle va mettre des années à être acceptée dans le couvent, où elle sent que qu'il est le lieu de sa vocation, parce que précisément, déjà, les phénomènes mystique, inexplicable, qui entoure sa figure, dérange beaucoup la hiérarchie de l'Église. Alors, ce qui m'a amené à elle, je ne saurais trop le dire, c'est dans un halo de mystère, mais ça va bien avec la figure, parce que je ne me rappelle plus qui m'a parlé pour la première fois d'Yvonne-Aimée de Malétroit, où j'ai lu son nom. Tout le monde me pose la question depuis quelques semaines. Il va falloir que je finisse par inventer
quelque chose.
Je vais essayer de créer un récit. J'avais pas préparé pour ce soir, mais justement, ça me va bien
malgré
tout. Ça me va bien malgré tout, parce que c'est un personnage mystérieux qui m'est tombé dessus comme une apparition, quoi, un petit peu. Et alors, bon, comme je disais un peu au tout début, dans les tout premiers moments, j'ai gardé mes distances, ou en tout cas, je les ai prises. Et puis, assez vite, en m'intéressant à la figure, parce que quelqu'un dans mon entourage, pour le coup, m'y a incité, ce qui m'a donné envie de creuser, précisément, c'est qu'elle a été quand même pas mal rejetée, à la fois par son temps, mais aussi post-mortem. Et ça la distingue également très nettement d'une Thérèse de Lisieux que vous citiez tout à l'heure. C'est que Yvonne-Aimée de Malétroit, elle est, en tout cas pour l'heure, certainement pas canonisée par l'Église catholique. Et que le dossier de béatification qui a été transmis à Rome quelques années après sa mort a été refermé aussitôt par un cardinal qui a eu peur des miracles.
Le cardinal Ottaviani qui a été terrorisé par cette espèce de flot de surnaturel, d'ailleurs, qui...
Absolument, et il s'est débarrassé d'une certaine manière de la figure avec ce qu'il y a de plus facile. Vous parliez de folie à l'instant, c'est d'en faire une folle. Alors, folie de la croix, je prends, parce que la folie de la croix, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour jusqu'au boutiste. En revanche, la psychose, je prends pas.
On peut
en reparler si vous le souhaitez.
Alors justement, on voit la vie du personnage d'Yvonne-Aimée de Malétroit historiquement, donc une origine bourgeoise, elle se dévoue d'abord à soigner les pauvres, ceux qui vivent à la pauvreté parisienne, tout autour de Paris, les fameuses barrières, la fameuse zone, les fortifs, voilà. Ensuite, donc elle s'oriente vers une vocation religieuse, on lui confie la direction d'un hôpital géré par des religieuses, et puis la guerre venant, elle se distinguera comme une héroïne de la résistance. Donc ça, c'est d'une certaine façon l'histoire de cette figure, tout en étant subissant pendant toute sa vie des souffrances liées à une maladie personnelle. Enfin bon, mais ce qui la distingue et ce qui la caractérise, à la limite, quand on lit votre livre, Jean de Saint-Chéron, c'est cette espèce de flot de phénomènes mystiques, enfin qui sont des signes d'une sorte de vie mystique intense, spirituelle, mais qui se manifestent à l'extérieur, puisqu'on a tendance à croire que ces phénomènes sont une fin en soi, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce sont des signes, d'une certaine manière, qui manifestent une sorte de dévotion intense. Alors, dans le cas d'Yvonne-Aimée, quels sont ces signes et comment sont-ils apparus et comment ont-ils été reçus d'abord par elle et puis par son entourage?
Alors je tiens à redire d'abord qu'il y a quand même, c'est vrai, une grande unité de sa vie, malgré tout. Et il ne faut pas trop distinguer, je pense, les deux Yvonne. La pragmatique qui serait au service des pauvres, puis dans des circonstances exceptionnelles qui sont celles de la guerre, des juifs, et puis surtout, enfin de deux jeunes juives, et puis surtout ensuite des dizaines et centaines de résistants et puis de parachutistes qu'elle cachera dans le couvent avec des scènes extraordinaires qui font penser à la grande vadrouille. Elle déguise des parachutistes en bonne sœur, etc.
Enfin, ça ne vous a pas échappé.
Voilà, ouais. elle n'a pas froid aux yeux. Et ce qui est sûr, c'est que y a quelque chose, en tout cas, tout au long de sa vie, à partir de l'enfance, à partir du moment où elle est saisie par une compassion hors norme devant l'existence de la pauvreté qui existe dans, non pas dans son entourage direct, parce qu'elle vient plutôt de la bourgeoisie, mais dans l'entourage des lieux dans lesquels elle vit. Elle ne supporte pas cela. Il y a quelque chose, alors c'est très louable évidemment, mais d'excessif depuis le début. Et toute sa vie est excès. D'une certaine manière, à la fois dans l'exercice de la charité, dans la résistance, elle va prendre des risques inouïs, d'ailleurs, en faisant courir à la centaine de sœurs de son couvent, le risque aussi de représailles allemandes gravissimes. Et elle va assumer ce risque. Et ça va avec cette explosion totalement baroque de phénomènes surnaturels dont vous avez très envie de parler, François Angelier, donc oui. On va y arriver. Mais je vois que Sean a envie d'intervenir.
Alors Sean Rose.
Non, parce que...
Que je ne savais pas ce point électrisé.
Moi, j'adore la mystique, vous le savez. Mais surtout, oui, il n'y a pas de césure entre ces deux Yvonne, parce que même il y a une scène qui est extraordinaire quand elle est assez jeune. On veut la marier, etc., mais elle s'occupe des pauvres. Elle a une amie qui est beaucoup plus pauvre, beaucoup humble qu'elle, et qui est malade, et elle va lui embrasser sa plaie purulente. C'est vraiment Saint-François, c'est toute cette mystique qu'il y a déjà dans
Marguerite
le Moyen-Âge.
Marie.
Il y a toujours, voilà, donc on suce des bubons, quoi, des pestiférés. C'est exactement ça. Donc en fait, il y avait déjà cet excès.
Elle y va précisément pour se combattre elle-même.
Absolument.
Oui, parce qu'elle est répugnée par la chair purulente de cette amie qu'elle vient visiter. Elle s'écarte de 2 mètres, elle prend une grande goulée d'air frais à la fenêtre. Et puis là, sa compassion surnaturelle,
radicale,
la rattrape, ouais. Et donc elle rejoint son amie sur sa couche et elle embrasse le pu. Ouais. Effectivement, c'est une scène marquante. Mais néanmoins, pour arriver enfin au phénomène surnaturel, il faut pas non plus les prendre, parce que vous dites, ce sont des signes, il ne faut pas s'y arrêter.
C'est signe extérieur d'une dévotion.
Mais pas d'une élection particulière non plus. Hein. Alors, pourquoi ils tombent sur elle, ces signes-là, ça c'est très mystérieux. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus voir en elle une élue particulière. C'est quelqu'un qui a exercé sa liberté. Hein, Yvonne Aimée, elle a choisi, d'une certaine manière, de vivre la charité de manière extrême, excessive, parce que c'était, à son sens, aussi le lieu du bonheur. Quoi. Donc ça, il faut bien le marquer. Alors, venons-en aux signes étranges, surprenants. Les stigmates, d'abord. Alors ça, c'est une manifestation, évidemment, très étrange et en même temps assez classique dans l'histoire de la mystique chrétienne depuis saint François d'Assise. Le premier stigmatisé, saint François, dans l'histoire, reconnu comme tel par l'Église. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que l'Église catholique n'a jamais reconnu officiellement que 2 stigmatisés dans toute l'histoire. Saint François d'Assise, donc au XIIIe siècle, et puis sainte Catherine de Sienne, un siècle plus tard. Depuis, il y a eu beaucoup de stigmatisés célèbres, mais l'Église n'a plus jamais pris le risque de se prononcer. Parce que le problème, c'est que, évidemment, un phénomène aussi extraordinaire que celui de stigmate, alors je ne sais pas si le phénomène de stigmate, c'est clair pour tout le monde, c'est de recevoir dans sa chair les marques de la passion du Christ en croix. Donc les marques des clous dans les mains et les pieds, une plaie au côté droit, qui est la plaie de la lance du centurion romain, qui vient perforer le côté du Christ après sa mort, côté d'où sortira du sang et de l'eau, ce qui donnera d'ailleurs lieu à une infinité d'interprétations et de lectures mystiques. Et donc, elle reçoit ça dans sa chair. Elle le lira, évidemment, comme une ratification par le ciel de son désir de se donner pour le bonheur et pour la vie des autres, de se sacrifier pour la vie des autres. Bon là, sur ce chapitre-là, elle est un peu à l'inverse d'Héliogabale, oui. Qui lui jouit des cris des enfants qui balancent du haut du rocher.
Comme tout le monde. Ouais,
absolument. Comme chacun sait. Elle ne supporte pas le moindre cri d'enfant. C'est plutôt ça, hein. C'est plutôt là pour le coup l'envers de la pièce, c'est qu'elle est prête à accueillir, à supporter, à assumer sur son corps à elle toutes les souffrances du monde pour que plus personne d'autre qu'elle ne souffre. C'est quasiment ça.
Un certain paratonnerre. Certains.
Voilà, le paratonnerre.
Justement, ce qu'il disait, les saints sont les paratonnerres de la société. Là on a quelqu'un qui appelle la foudre.
Tout à fait. C'est le paratonnerre qui recueille les foudres du malin. Le mal absurde qui s'abat sur le monde et qui vient frapper des innocents. Yvonne Aimé dit « je prends tout ». Je prends tout. Et effectivement, ce qui est surprenant, c'est qu'elle est marquée en même temps par ces phénomènes extraordinaires. Donc, le premier qu'on vient de citer, c'est les stigmates, donc qui lui abîment la chair à des centaines et centaines de reprises au cours de son existence, hein, quasiment jusqu'à sa mort, donc pendant plus de 20 ans. Ces phénomènes-là uniques, dirons-nous, en tout cas rarissimes, sont associés, et à nouveau, ça nous rappelle qu'il n'y a pas deux Yvonne, comme disait Sean, à des maladies aussi qu'elle va se mettre à endosser, alors là pour le coup de manière à moitié volontaire, parce que comme elle travaille dans une clinique, elle prend aussi beaucoup de risques en soignant les malades, et donc elle se retrouve à supporter des maladies comme si les maladies passaient du lit des patients sur le corps de l'infirmière, quoi, qui vient supporter la douleur des autres. Il y a aussi des maladies qu'elle n'a pas choisies. Hein. Vous parliez de la maladie rénale qu'elle a contractée très tôt et qui l'a fait gonfler.
Parce qu'elle a encore aussi empêché, on ne la croit pas aussi parce qu'elle est grosse finalement. Et donc ça
lui donne pas une silhouette de mystique.
Exactement.
C'est sûr que Saint-François d'Assise était plus sans doute, était plus crédible.
Pour le casting, c'est voilà. Vrai que c'est mieux.
Et d'ailleurs, vous hésitez à un moment, vous dites que c'est peut-être à cause des maladies, mais aussi parce que personne ne nie qu'elle aimait.
Elle cuisinait bien. Oui, j'ai essayé de faire le livre le plus honnête possible. Donc je n'écarte jamais aucune hypothèse. Mais néanmoins, elle avait cette maladie rénale et donc avec un problème de production d'albumine qui l'a fait enfler très vite. Et ça, on voit, il suffit de regarder les photos, hein, entre quand elle a 17-18 ans et puis 22. Elle a vraiment, pour le coup, elle a été déformée par cette maladie-là. Mais comme vous le dites très bien, Guillaume, effectivement, ça ne l'empêchait pas de goûter sans doute le coup de girafe.
Oui.
Alors, c'est une personnalité exceptionnelle, mais maintenant, évidemment, il faut se confronter à ce qu'on appelle la hiérarchie ecclésiastique, et je veux dire, à une sorte de dehors qui est le milieu des théologiens, j'en parlais, et des exorcistes. Seul Tonquédec ne mollit pas. S'il a l'extrême amabilité de continuer à revoir Mademoiselle Beauvais, c'est parce que plusieurs proches de la favorisée témoignent avoir vu l'incroyable de leurs propres yeux. Il continue donc de réclamer un signe tangible, stigmate, extase avec sueur de sang ou même fleur, ce qu'elle voudra. Mais il doit, au nom de l'Église, avoir le cœur net, que ce ne sont là ni racontars, ni hallucinations. En attendant, il ordonne une série d'examens médicaux. Elle se soumet. On la regarde sous toutes les coutures psychologiques et physiologiques. Un régiment de spécialistes, les docteurs Miraillé, Pastot, Vinchon, se succèdent dans sa chambre. Mais le mystère qui entoure son cas demeure entier. S'agissant des cicatrices qu'elle porte sur le dos, les profondes blessures, comme des sillons parallèles dont elle attribue l'origine aux griffes de Satan, rien ne permet de conclure avec certitude qu'elle se les soit infligées elle-même. Certaines traces, en plein milieu du dos, sont en tout cas problématiques, trop nettes pour qu'elle se soit scarifiée toute seule. Les médecins ne tirent de leurs auscultations que des conclusions physiques. C'est incompréhensible. Peut-être a-t-elle un complice. Tonquédec, lui, à la faiblesse de croire à l'existence du diable. Et si rien, bien sûr, ne prouve l'origine surnaturelle des plaies, rien n'atteste non plus le contraire. Il s'agit donc toujours, dans l'esprit de l'exorciste, d'une explication plausible, mais il voudrait en avoir le cœur net. Tonquédec en question, c'est le père de Tonquédec qui était exorciste de l'archidiocèse de Paris. Donc, il voyait défiler quand même pas mal de cas assez croustillants.
Il y avait une certaine expérience.
Dans son bureau et sous ses, parmi ses dossiers. Donc là, justement, c'est l'éternel problème que pose ce type de figure dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que les premiers à tenter de démystifier, d'écarter, de marginaliser, de combattre d'une certaine manière, c'est l'appareil religieux.
Ah oui, tout à fait, oui, c'est très mauvais genre en réalité, les phénomènes surnaturels inexplicables au cœur de l'Église, quels qu'ils soient. Mais dans l'extrait que vous venez de lire, François Gélier, vous vous arrêtez alors que Tonquédec est encore à réclamer un signe, il viendra, et le plus extraordinaire, donc un jour, alors qu'elle ne l'a pas vraiment prévu, mais elle finit par en avoir marre, Yvonne, de passer entre les mains des médecins d'exorcisme. Donc elle dit au Seigneur, écoute, fais leur vendre un signe parce que je commence à en avoir marre et j'ai envie de rentrer à Mal-Étroit, de devenir bonne sœur et de m'occuper des malades. Et puis un beau jour, elle arrive pour la énième fois dans le bureau de l'exorciste du diocèse et Tonquédec assiste absolument ébahi à une grâce mystique reçue de sueur de sang. Le sang se met à perler du front ou des cheveux d'Yvonne, ruisselés sur son visage. Il voit ça de ses yeux. Elle a les yeux qui se révulsent, sa peau blanchit. Puis au bout d'un instant, le phénomène s'arrête. Elle se lève, elle va se passer de l'eau sur le visage au lavabo voisin. Et alors, ce qui est extraordinaire, donc l'entretien s'arrête là. Évidemment, il a besoin de reprendre ses esprits.
Oui,
l'ami Tonquédec, elle rentre chez elle et elle se dit sans doute, dans son fort intérieur, il va enfin me lâcher la grappe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que devant de tels phénomènes, on peut aussi choisir de ne pas croire. Et donc Tonquédec a beau avoir vu, le soir dans son lit, il se dit « j'ai dû rêver ». Et donc il préfère croire à sa propre hallucination plutôt que d'admettre qu'un tel phénomène est apparu sous ses yeux et a ratifié les grâces mystiques que reçoit la jeune Yvonne Beauvais.
Pour conclure
Moi, je trouve que, en fait, même si on devait être très rationnel, dire que c'est un phénomène psychosomatique, mais finalement, c'est tout à fait en cohérence avec la religion de l'incarnation, puisqu'en fait, il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme. Donc,
absolument.
En fait, cette union semble tout à fait... Là, c'est pas quelque chose qui démontrerait le phénomène.
Mal-Étroit de Jean de Saint-Chéron, c'est aux éditions Grasset. On passe maintenant aux chroniques.
Pour este poema, a la que fuera tan amada, durante fugaces instantes. A la mujer de mis noches, a la que se iba al alba sin nunca hablarme de ella. ¿A quién me dio de mis fuentes y cuyo misterio me falta?
Voilà la BO d'Emilia Pérez de Jacques Audiard, un choix de Laurent Polleret dans Mauvais Genre sur France Culture. Chronique maintenant, on commence avec quelqu'un qui était rare à sa manière mystique. Je ne sais pas si Colette peut figurer parmi les mystiques. En tout cas, l'univers queer camp peut-être plus. Mais en tout cas, on va voir cela avec vous, Esther Teilhard.
Oui, Colette écrit sur la mode, l'art de surprendre aux éditions Bartilla, préfacée par Nicole Ferrier-Cavrivière. Colette, tellement gracieuse, les boucles de ses cheveux courts, la rondeur de ses bras, le vêtement toujours simple, noir, blanc, et l'élégance de mise. Colette aimait la mode, ses écrits débordent de froufrous et volants, de robes de gaze bleue et soie blanche. Donnez-moi la teinte précise de votre jupe, la matière de votre foulard, le pli de votre manteau sur la jambe, et je vous dirai qui vous êtes. Colette a prêté ses héroïnes sans ne jamais les corseter, les laissant respirer à l'air libre et jouer avec leur chatte. Car si le style est essentiel, tableau des mœurs, spectacle des avancées, des déchéances et des disparitions, Colette se moque de la mode et de ses injonctions. Elle coupe ses cheveux, faisant un grand chagrin à sa maman Sido, géniale mère étouffante qui appelait sa fille mon chef-d'œuvre. Colette gamine dans le placard de maman, déjà radieuse, experte en liberté, séductrice séduite. Colette qui sera belle quand Willy lui dira de l'être, et si belle sans Willy. La mode est une forme de laideur si intolérable que nous devons la modifier tous les 6 mois, disait Oscar Wilde. Colette verra passer les jupes larges et les jupes étroites, le style midinette et la révolution garçonne. Elle écrira sur ces changements, ne laissera rien passer, toujours cette cruauté de chatte. Le vêtement doit se renouveler, changer comme les humeurs et les températures. Elle n'aime pas l'inconfort, la jupe tube, le chapeau cloche. Colette aime l'agréable, l'effort qui ne se voit plus tant il est travaillé. Talent de son ami Gabrielle Chanel. Le vêtement, c'est bien sûr le marqueur social. Les étoffes maigres, comme une tapisserie de province, son village natal de Bourgogne, contre les sequins de Paris. Colette le sait, on voit tout de suite l'inadapté à sa tenue, la bourgeoise à son col. Claudine en a fait l'expérience. Le vêtement, c'est aussi l'espace des possibles. Si l'on se comporte mal, autant mal se comporter en grande robe. Et Colette les aime bien, celles qui ne respectent rien, mettent les coudes sur la table et font tomber les verres. Elle est hantée par le style des bombasses de 1900, les cocottes, les lionnes du Second Empire, Émilienne d'Alençon, Cléo de Mérode, Caroline Otero. Leurs gros rangs de perles noires, leurs colliers à 3 étages, pris d'un royaume. Colette, avant tout vieux chasseur, c'est elle qui s'appelait ainsi, n'assistant au défilé que pour mater les mannequins. La mode, c'est l'enfance et les premières excitations. Claudine à l'école, je cite. On la mangerait toute vive tant elle séduit dans sa robe blanche en mohair brillant. L'essence électrisée par une couleur trop vive, vue sur une femme trop belle. Colette écrit sur la mode, l'art de surprendre aux éditions Bartilla.
Merci Esther Teilhard donc pour cette Colette. Est-ce que Madame Beauvais appelait sa fille mon chef-d'œuvre? La mère d'Yvonne Emery.
Alors, non, j'ai pas lu ça, non. J'ai lu ça sous la plume d'aucun hagiographe même. Elle rêvait de la marier, comme vous le savez. Bah oui, pour elle, sûr. C'était son échec, plutôt.
Donc, Colette, aux éditions Bartilla. Maintenant, Chaune Rose, avec un autre personnage, beaucoup plus héliogabalesque.
Oui, un peu plus héliogabalesque, comme vous dites. Donc, en fait, c'est un roman japonais d'un certain José Ando. Son deuxième roman traduit. Donc, je vous entraîne au Fight Club, qui est un love hotel. Donc, je ne sais pas si Guillaume doit savoir ce qu'est un love hotel.
Absolument, oui.
C'est ces hôtels où se rencontrent les amants, les Japonais étant préférant les fredaines un peu discrètes. Mais là, c'est un love hotel qui, en plus, a la particularité qu'il n'accueille que des couples des homosexuels. Donc, en fait, des hommes qui aiment les hommes. Et là, le narrateur est un narrateur qui est un salaryman, c'est-à-dire l'homme gris du métro japonais. On l'appelle d'ailleurs, dans sa boîte, on l'appelle personne non-joueur, PNJ. Dans les gamers savent ce que c'est, alors que c'est pas du tout. Il n'y a pas. C'est quelque chose qui est généré par le jeu, qui n'est pas du tout. Il n'y a pas de joueur derrière. Donc, tellement il est gris, falot, mais il retrouve à ce club, puisque. Ce qui est intéressant, c'est que l'homosexualité est assez cachée au Japon. Et ce qui est encore une autre discrimination, c'est que le narrateur, PNJ est black mix, c'est-à-dire afro-asiatique. Ce qui est aussi quelque chose de mal vu, finalement, dans une société assez raciste et xénophobe. Et il retrouve dans ce club un jeune garçon qui s'appelle Ibuki, qui lui est comme lui, donc un black mix, et qui est un peu sadomasochiste, masochiste surtout, parce qu'il aime recevoir des bleus. Et ce qui est étrange, c'est cette relation comme ça entre eux, où c'est en miroir, ils se détestent en même temps qu'ils s'attirent. Et une des premières scènes, c'est qu'en fait, ils se retrouvent donc à ce Love Hotel et ils découvrent, en fait, très peu après, on découvre le corps d'Ibuki inerte dans un matelas mouillé. Sur un matelas mouillé, et on se rend compte très vite. Donc je comprends rapidement, dit-il, que le liquide qui se répand sur le matelas n'est pas de l'eau. La peau d'Ibuki est recouverte de son propre sang et de sa propre merde, comme si quelqu'un avait voulu le profaner. La profaner, donc, cette peau de métisse. Et finalement, toute cette histoire est une espèce d'enquête, comme ça, et tout ce qui est, ça devient une espèce de whodunit, mais en fait toujours très mystérieux sur l'identité et sur le fait de c'est bleu sur le corps, c'est l'homme camouflage, et c'est le titre en fait de ce deuxième roman traduit. Et on avait le premier qui s'appelait juste Jackson. C'est en fait ce livre, c'est un prequel comme on dit, c'est-à-dire qu'on le retrouve. En fait, c'était le livre précédent. On avait déjà ce Ibuki. Donc c'est intéressant, vraiment, avec un style très sensoriel et très bien écrit sur ce milieu gay, mais en plus des black mix.
Merci, Sean Rose, donc, pour cette chronique. Merci à Jean de Saint-Chéron. Merci à Guillaume Lebrun d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre. Je rappelle donc vos livres. Alors, Guillaume Lebrun, Ravagé de splendeur, toute la beauté barbare d'Elio Gabal, c'est aux éditions Bourgois. On peut lire Fantaisie guerrière, votre premier texte, donc, dans la collection de poche des éditions Bourgois. Jean Genet, Elio Gabal, c'est chez Gallimard. Puis, si vous voulez une approche historique, on recommande chez Albin Michel, Elio Gabal et le Sacre du Soleil de Robert Turcan, c'est un classique. Et puis Mal étroit de Jean de Saint-Chéron, c'est aux éditions Grasset. On peut trouver également, j'imagine, plusieurs volumes aux éditions Xavier de Guibert, je crois.
Oui, absolument, même si la littérature est moins importante sur Yvonne Beauvais.
Merci toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pelleret, Anthony Thomasson, Claire Poinsignon, Claire Martin-Dugard, Esther Teilhard, Sean Rose et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission polar. Pardon, on parlera d'exposition Faits divers au Macval et du livre de Nicolas Lefleck sur Jean-Patrick Manchette.
Vous êtes bien sur France Culture.
Dis, quand reviendras-tu ? Sorti en 1962 et la première chanson composée par Barbara.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage.
Une histoire particulière, Barbara, dit « Quand reviendras-tu ?» de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Dans les rues de Paris.
Avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes, sa manière de rire sous cap et ses sacrées vacheries pour créer l'hilarité chez les adultes comme chez les enfants, Cabu est devenu le dessinateur de toutes les générations.
Anaïs Quien.
Alors on reprend l'histoire depuis le début pour passer un moment avec lui, le grand Duduche, le beauf, l'adjudant Cronenbourg, sans oublier le nez de Dorothée.
Toute une vie, ce dimanche à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, les fictions.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans les programmes de fiction. Ce soir, samedi poésie avec Baudelaire, les nuages et l'infini. Le spleen de Paris, les fleurs du mal, les curiosités esthétiques et des lettres à sa mère. Ce sont les recueils dont sont issus les textes qu'a choisi l'écrivaine Maïlys Bessery pour cette émission. Avec eux, nous traversons l'œuvre de Baudelaire, sa prose, sa poésie, ses textes critiques. Clément Bresson de la Comédie Française, Emmanuel Lafont et Arthur Igual nous invitent dans le monde du poète et nous font entendre la beauté de son écriture et la nécessité de la lire et de l'écouter. La réalisation ici signé Christophe Hoquet.
Baudelaire, les nuages et l'infini.